Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 13 février 2020. Mathieu est au micro avec vous en compagnie de Marie-Ève.
Bonsoir.
Bonsoir, Simon.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Bonjour, bonjour. 18h30 en direct des studios de choc.ca. Notre émission aux deux semaines, donc une heure de contenu sur des enjeux de frontières, immigration, racisme, sécurité nationale. D'ailleurs, on va parler de sécurité nationale aujourd'hui avec un sujet précis, celui sur Hassan Diab. Émission bien chargée, beaucoup de contenu. Marie-Ève revient après une semaine... une émission avec une présence lointaine,
oui,
préenregistrée,
quasi virtuelle.
Mais là, elle est en studio avec nous, on est bien content. Donc aujourd'hui à l'émission, on va vous parler aussi de la situation autour des Wet'suwet'en dans pas beaucoup de temps.
Oui.
On va parler aussi du mois de l'histoire des Noirs. Évidemment, on va faire un topo un peu des événements qui se passent dans ce mois de février. On va avoir les actualités internationales. On va parler entre autres de la Belgique, des enjeux de racisme là-bas. Et on va commencer à parler du Sahel, un dossier quand même assez complexe au niveau de la géopolitique et des crises humanitaires. Actualité locale, je l'ai dit, avec Hassan Diab. Et il y aura aussi le retour de la Minute coloniale,
ouais,
en deuxième partie d'émission. Donc, de la musique, évidemment, aussi qu'on va entendre à l'émission pour nous suivre en tout temps, en balado, allez sur le site de choc.ca, on a une page d'émission des Apatrides Anonymes, on a aussi une page Facebook où on essaie de mettre des articles d'actualité, des informations, vous pouvez aller la consulter et l'aimer. Notre courriel pour nous rejoindre, c'est apatridesanonymes@resist.ca. Donc voilà pour le sommaire de l'émission. Dans quelques minutes, Marie-Ève, tu nous parles donc de cette résistance qui prend de l'ampleur, qui déstabilise beaucoup de monde autour des enjeux autochtones dans l'ouest du Canada. Canada en guillemets.
Et oui, effectivement, Marie-Ève au micro pour le bon coup de la semaine. Et cette semaine, j'ai décidé de tirer mon chapeau bien bas, si on veut, à cette vague de solidarité que je qualifierais pratiquement de sans précédent, en fait, envers la lutte de la Première Nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Là, ça bouge beaucoup là ces derniers jours. Il y a des centaines de manifestations, d'occupations, de blocages et de sabotages qui se déroulent vraiment coast to coast depuis quelques jours. Donc, de Vancouver à Halifax, comme je disais, en solidarité avec les Wet'suwet'en, dont le territoire est actuellement envahi par la GRC. Là, je reviendrai pas sur les détails de toute cette lutte-là parce que, enfin, les grands médias ont décidé d'en parler pour vrai. Justement, je pense, en raison de l'impressionnante multiplication des actions de solidarité. Mais quand même, rappelons là que les Wet'suwet'en se battent depuis des années contre le projet de gazoduc CGL. Là, ce qui a changé dans les dernières semaines, c'est que la GRC a commencé un raid lourdement militarisé le 6 février dernier, faisant depuis plusieurs arrestations. Le 10 février, la police a procédé à l'arrestation de plusieurs femmes, dont la matriarche Frida Hawson, alors que les femmes étaient en train de tenir une cérémonie en l'honneur des femmes autochtones disparues et assassinées, imaginez-vous donc, sur le pont là, menant à un des camps. Face à ces actes de violence coloniale-là, donc la Première Nation Wet'suwet'en a lancé des appels large à la perturbation puis au blocage des infrastructures canadiennes et auxquelles en fait les gens ont vraiment répondu. Les réponses, ça s'est diffusé comme une traînée de poudre à travers le pays. Il y a même, à ce qui paraît, le hashtag Shutdown Canada qui était en début de semaine le 5e le plus populaire sur Twitter.
Rien de moins.
Donc, ce que je trouve d'inusité dans cette vague de solidarité-là, c'est le nombre en fait d'actions directes des centralisée, qui vise le fonctionnement et du capitalisme et de l'État. Par exemple, pendant plusieurs jours, des dizaines de personnes ont maintenu un blocage du port Delta à Vancouver, qui est un des plus grands du pays. À Victoria, il y a des jeunes militants autochtones qui maintiennent une importante occupation devant le Parlement de la Colombie-Britannique. Puis plus de ce côté-ci du continent, il y a une manifestation qui a bloqué cette semaine pendant environ 5 heures le port de Halifax. Puis ça, c'est sans compter, évidemment, là, toutes les occupations de bureaux gouvernementaux, les blocages ou les sabotages de voies ferrées qui se multiplient aussi, et ça malgré les injonctions. Aussi, c'est que ben pour une rare fois, il me semble, dans ce genre de mobilisation massive là de solidarité, on en fait on fait un lien clair entre le capitalisme et le colonialisme. Je trouve que c'est un lien qui est rarement fait. Par exemple, le fait que le CN soit la cible principale des blocages, c'est pas anodin, étant donné le rôle historique majeur qu'il a joué dans la colonisation du territoire. Le CN a annoncé plus tôt cette semaine qu'il serait forcé de fermer de façon imminente des tronçons significatifs de son réseau ferroviaire si les blocages à Tiendanaga en Ontario puis à New Hazleton en Colombie-Britannique continuaient. Le CN a aussi reconnu que les blocages affectent le transport des marchandises et donc le commerce et l'économie. Le CN a même dit, bon, des centaines de trains ont été annulés depuis le début des blocages il y a 5 jours. L'impact se ressent également bien au-delà des frontières canadiennes et endommage la réputation du pays en tant que partenaire stable et viable de la chaîne logistique. Donc, on voit vraiment que l'impact sur l'économie canadienne est indéniable. Puis là, il y a aussi les divers paliers de gouvernement qui se renvoient la balle quant à qui doit agir et surtout comment. Cette situation-là aussi met en lumière des tensions dont on parle peu, en fait, parce que c'est un peu sensible comme enjeu. Donc, les tensions qui existent aussi au sein même des Premières Nations entre les conseils de mande, hein, qui est un système de gouvernance qui a été imposé par l'État colonial, et les chefs traditionnels. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu aussi qu'on voit justement en Colombie-Britannique. Qui servent justement à créer des divisions au sein des Premières Nations. Bref, on a rarement vu le socle colonial du soi-disant plus meilleur pays du monde être aussi ébranlé et on ne peut que s'en réjouir. Si vous voulez avoir un excellent survol des différentes actions en cours puis qui ont eu lieu, je vous invite à visiter le site web de la plateforme de diffusion d'informations militantes Contrepoint au pluriel, point média au pluriel.
C'est basé à Montréal.
Ouais. Ouais.
Simon?
Ben oui, je trouve un petit commentaire éditorial. Je trouve ça drôle, tu parles de la réputation économique du Canada, mais on semble pas se soucier de la réputation environnementale ou de la réputation du Canada au point de vue des droits des Premières Nations. Donc, c'est un petit paradoxe très économique, là, ici.
Oui, non, mais je pense que l'enjeu, c'est de frapper là où ça fait mal, puis c'est clairement
ça marche,
là. C'est ça.
Mais l'économie, de toute façon, quand l'économie va bien, l'environnement va bien, les Autochtones vont bien, les pauvres vont bien, c'est connu.
Paraît-il, oui.
De toute façon.
Oui, les pipelines aident l'environnement.
Oui. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir la situation, cette espèce de débordement qui est relativement spontané et...
Vraiment décentralisé.
C'est pas nécessairement des groupes super organisés. C'est assez bon. Il y a des gens qui sont habitués de faire des manifestations, qui ont des revendications, mais quand même qui réussissent rapidement à s'imposer comme ça dans
puis
des lieux stratégiques.
Des lieux stratégiques, puis autant des personnes issues des Premières Nations, mais aussi des allochtones, des non-autochtones qui organisent des choses aussi, puis organisent soit de leur côté ou ensemble. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement.
Il faut dire qu'en Colombie-Britannique, il y a des bons liens entre les militants anticapitalistes, anticolonialistes et les communautés autochtones plus que dans d'autres provinces.
Oui, mais dans le coin d'Halifax aussi avec les Mi'kmaq.
Oui, c'est vrai. Mais les Colombie-Britanniques sont beaucoup sont organisés. Ouais. Et en passant, la compagnie TC, qui s'occupe de Coastal GasLink, c'est TransCanada. Ils ont juste changé leur nom.
C'est ça. Ah,
fait qu'on on voit d'où ça vient. Juste finir là-dessus, Marie-Ève, il y a un show bénéfice le 22 février à Montréal au Lion d'Or, organisé par différentes assos étudiantes de l'UQAM, où on est actuellement, pour ramasser de l'argent pour les frais juridiques, évidemment, des arrestations, des injonctions, des emprisonnements. Donc, au Lion d'Or le 22 février, avec plein d'artistes qui vont être là et, évidemment, des militants militantes qui vont prendre la parole.
Ouais.
On va passer à quelques notes de musique et on revient avec les actualités locales avec Simon. We'll be right back. Toujours à l'émission des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. On poursuit avec Simon, les actualités, on pourrait dire, nationales, fédérales.
Oui, ben en fait, je vais vous parler en premier de la poursuite contre le gouvernement du Québec par English Montreal, la commission scolaire, à propos de la
surprise.
Loi sur la laïcité. Mais non, finalement, finalement, c'est un sujet qui est quand même assez abondamment traité.
Ouais.
Puis les médias ont surtout parlé de est-ce que ça va être financé ou non par le programme de contestation fédérale.
Judiciaire fédéral, oui.
Une saga qu'on va suivre éventuellement, et voilà. Donc finalement, je vais vous parler plutôt d'un autre sujet, c'est Hassan Diab et sa famille qui poursuivent le gouvernement fédéral pour... C'était pas clair, on disait 70 millions, 90 millions, c'est 90 millions de dollars. Donc, un peu de mise en contexte, M. Diab était le seul suspect d'un attentat à la bombe contre une synagogue de Paris en 80. Il y avait eu 4 morts, une quarantaine de blessés. M. Diab est aujourd'hui âgé de 66 ans. Il avait été arrêté par la GRC en 2008 à la demande du gouvernement français. Donc, je fais en gros la séquence très lente et très longue des événements. Donc, 2008, arrestation à Ottawa, où M. Diab est enseignant à l'université. 2011, 3 ans plus tard, un juge canadien prend en charge la requête d'extradition demandée par la France. 2012, le ministre de la Justice du Canada à l'époque, Rob Nicholson, ordonne l'extradition de M. Diab. 2014, finalement extradé et incarcéré en France, donc en tout 6 ans après son arrestation en 2008. 2017, instruction terminée par le parquet de Paris qui juge la preuve insuffisante et demande son renvoi vers la cour d'assises. 2018, charges contre M. Diab sont abandonnées et il est libéré. Donc, 10 ans après son arrestation, il revient au Canada.
Il faut dire que, je ne sais pas si tu as le dire, mais il a beaucoup contesté son extradition, évidemment, pendant les premières années. Avant d'être extradé.
Ça, il me manque un peu d'infos. C'est un dossier qui est quand même complexe, mais ça avait duré quoi, 3-4 ans?
Oui, devant différents cours fédéral d'appel. Il y avait un bracelet GPS à un moment donné, il y avait des conditions. Il a perdu son emploi à l'Université d'Ottawa, donc tout ça.
Il avait même réussi à se faire enseigner par une autre université, Carleton, à Ottawa aussi. Il avait finalement été mis dehors parce qu'il y avait eu des plaintes du Minaibre. En tout cas,
ça a été quelque chose.
Ça n'a pas été facile. Alors, maintenant, la famille Diab reproche au fédéral son rôle dans l'extradition, l'emprisonnement de M. Diab en France. Et dit que le gouvernement canadien, le ministère de la Justice, le ministre conservateur de l'époque, ont fait preuve de négligence, de tromperie et d'abus de procédure. Selon la requête qui vient tout juste d'être déposée, les autorités canadiennes avaient en leur possession des preuves qui auraient pu innocenter M. Diab, preuves qui n'auraient pas été retenues dans le dossier et pas transmises à la France non plus, donc en plus d'autres irrégularités qui ont été constatées par la suite. On va revenir un peu en arrière. Peu avant son extradition vers la France, donc si je me fie à ça, c'était en 2014, il y avait un juge ontarien qui est en charge du dossier qui avait écrit que le dossier à être présenté à la justice française était faible et qu'une condamnation dans le cadre d'un procès juste et équitable était peu probable. Donc, malgré tout, les autorités canadiennes ont quand même extradé Hassan Diab, où il va perdre un autre 3-4 ans de sa vie.
Mm-hmm, tout à fait.
Jusqu'à tout récemment, la famille Diab ne souhaitait pas obtenir de compensation financière. Elle voulait la tenue d'une enquête publique suivie d'une réforme des lois canadiennes sur les extraditions. Ce qui, à la lumière de ce qu'on constate, serait pas un luxe. Le discours de la famille Diab a changé quand un rapport de l'ancien procureur en chef de l'Ontario, M. Murray Siegel, a été publié en juillet dernier. Rapport qui conclut que le ministère de la Justice n'a rien à se reprocher dans sa gestion du dossier Diab durant toutes ces années, malgré tout ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même un peu fort dire que...
Malgré l'échec de toute la procédure au complet.
Bien, c'est ça. Puis que malgré on a emprisonné, mis dans des conditions terribles, extradé pendant 10 ans une personne et que, c'est pas grave. Donc ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase pour la famille Diab qui a jugé que ce rapport-là était une opération de relations publiques pour limiter les dégâts, pour protéger les hauts placés du ministère de la Justice, dont l'ancien ministre. Donc on va profiter de cette poursuite-là pour aller au fond des choses, du moins c'est ce qu'on espère du côté de la famille Diab.
Ouais, parce que puis en plus, c'est qu'au-delà de toutes ces années perdues, c'est une atteinte. Non seulement ces années-là sont vraiment perdues pour vrai, mais c'est l'atteinte aussi à la réputation. On le sait, tu sais, qu'une fois d'avoir été dépeint comme étant un terroriste, les gens se rappellent juste de ça. En fait, ils se rappellent pas après de finalement, est-ce que, quelles ont été les décisions judiciaires, tu sais, ou qu'est-ce que...
Ben, atteinte à la réputation, mais aussi sur l'aspect psychologique de la
aussi,
chose, ça doit être terrible. Donc, même si toi, tu dis non, je vais repartir ma carrière et les portes s'ouvrent, je suis pas sûr que tu vas avoir
bonne
le courage
chance, ouais.
et nécessairement la force pour le faire, effectivement. Donc, la poursuite consiste en quoi? Monsieur Diab, 50 millions de dollars en dommages punitifs pour la violation de ses droits garantis par la charte. En plus, sa femme et ses deux enfants poursuivent pour 40 millions en dommages punitifs aussi, disant qu'Ottawa leur a infligé intentionnellement de la détresse émotionnelle. Conclusion, bon, en tout cas, une autre histoire de cafouillage assez monumental des renseignements canadiens quand ils sont en contact avec d'autres services de renseignement de superpuissance alliées, que ce soit la France, les États-Unis. On bâcle les dossiers, on nie les droits fondamentaux, on cache, on détruit des preuves. On peut penser au Omar Kader, à Boussane Abdelrazif, Mohamed Arkad, Hassan Al-Mraï. Je pourrais en nommer d'autres qui, toujours après coup, poursuivent le gouvernement canadien. Ça se termine en général en Cour suprême et le gouvernement canadien perd parce qu'il n'a pas respecté les droits fondamentaux des citoyens canadiens toujours d'origine arabo-musulmane, parce que quand le mot terroriste est évoqué, ben on semble un peu perdre la tête.
Il faut dire aussi, en plus, qu'ils finissent par donner des gros, gros montants d'argent pour... dans une entente à l'amiable en général. Donc.
Puis ensuite, la presse populiste, ben, se choque un peu de ça, là. On donne l'argent terroriste. Bref, j'embarquerai pas là-dedans. Dans le cas de cette poursuite-là, ça va être intéressant de voir. Est-ce que oui, on va arriver avec des conclusions intéressantes sur les modalités qui permettent d'extrader quelqu'un ou même de condamner quelqu'un, d'accuser quelqu'un? Comment on traite les preuves. Bref, je prédis que ça va se rendre en Cour suprême. Là, pour l'instant, c'est une requête à la Cour supérieure de l'Ontario.
Mm-hmm.
C'est des enjeux plus importants que Mike Ward qui veut saisir le plus haut tribunal pour savoir s'il peut insulter des personnes handicapées. Excusez l'éditorial.
Mais là...
Donc, c'est ça, ça va être intéressant. C'est intéressant de voir aussi la Cour suprême que des juges, maintenant beaucoup qui ont été nommés par Harper, comment elle se comporte dans ce dossier-là.
Et c'est l'échec aussi de toute la politique antiterroriste du gouvernement canadien après le 11 septembre 2001. Les certificats de sécurité qui n'ont pas marché, qui ont été abandonnés, ce genre d'accusations-là contre des personnes comme Hassan Diab, c'est vraiment l'échec des libéraux et des conservateurs au cours de ces années-là. Et on espère que ça va être retenu pour que pas d'autres personnes souffrent de la même façon que M. Diab.
Oui, l'échec du Canada.
L'échec du Canada. Encore une fois, ça fait deux chroniques en ligne. Donc, on va y aller en musique avec... Wyclef Jean avec Mousaïen, la pièce 24 heures à vivre sur les ondes de choc.ca.
Qu'est-ce que tu aurais fait? Yo. Si ouais, c'était juste 24 heures à vivre, j'irais voir ma mère pour lui dire qu'elle m'a bien élevé, son fils elle peut être fière. Yeah. Qu'on m'a traité de voleur, assassin. Elle m'a pas lâché, pour ça je veux l'embrasser. Un bec sur le front, puis dans la rue, je suis reparti. 2h30, j'appelle Jules Duplessis. Dis, viens me chercher pour me déposer chez ma mamzelle. Sa robe elle est tellement belle. Yeah. Elle dit, oui, Clef, allons manger au tap-tap. J'ai dit, je pas capable parce que demain je serai pas là. Je viens seulement te remercier. Yeah. Parce qu'avec tout ce que je t'ai fait, passer t'aurais dû me quitter. Aller ailleurs, tu es une belle femme. Pas besoin de pleurer. Quand je vais m'en aller, tu peux te remarier.
Moi t'arrêt me connaît, dans tes jours m'a mourir.
Et si t'avais 24 heures à vivre, aurais-tu chanté, aurais-tu dansé, aurais-tu pleuré?
Aurais-tu m'en aller.
Et si t'avais 24 heures à vivre, aurais-tu chanté, aurais-tu dansé, aurais-tu pleuré?
Qu'est-ce qu'on aurait fait? Rappelez-vous qu'un bout, avant son déparadis, que personne ne pleure, même un dog à sa place au paradis. Avant que je m'en aille, faut que je vois mon petit neveu, l'embrasse entre les deux yeux, on se verra si Dieu veut. Et jusqu'aux entrailles, faut que tu te battes. Ah oui, la vie est un gros cul-de-sac. Oh, oh, plus sac, faut que je vois ma lady. Sexe sans protection, je veux t'aimer, mon baby. Sexe quand j'étais petit, j'étais fou, je faisais trop de trous. Maintenant on en rit pendant que mamie nous fait un son fou. Avec tous mes alliés à la table, je vais m'en aller où est-ce que je vois des palmiers et la plage.
Moi t'arrêt me connaît, dans tes jours m'a mouru.
Et si t'avais 24 heures à vivre, aurais-tu chanté, aurais-tu dansé, aurais-tu pleuré?
Je vais m'en aller.
Qu'il me reste 24 heures ou qu'il me reste toute une vie. Chaque seconde que j'aspire me sortira d'ici. 86 400 feuilles à plus l'or, c'est le tout de minuit. C'est ça la vie et laisse-moi dire que le défi est de taille. Que bye, ne pleurez pas s'il faut que je m'en aille. Je fly, j'remplis ma mission ou je déraille. Seigneur, pardonnez-moi mes failles. C'est ça la vie et laisse-moi dire que le défi est de taille. Que bye, ne pleurez pas ma vie si je taille. Je fly, le soleil brille sur mon champ de bataille. Qu'est-ce que l'ennemi défaille. C'est ça la vie et laisse-moi dire que le défi est de taille.
Moi, t'as rien, mais connais, dans tes jours, ma mourir.
Et si t'as 24 heures à vivre, aurais-tu chanté, aurais-tu dansé, aurais-tu pleuré?
Oh Dieu, moi je m'en allais. Oh Dieu, moi je m'en allais.
Et si t'as 24 heures à vivre, aurais-tu chanté, aurais-tu dansé, aurais-tu pleuré?
Oh Dieu, moi je m'en allais.
Et yo, drama, Gesto FK. Je pars de 24 heures, j'ai réparé mes erreurs. Parler à mes parents et mes soeurs, pardonner mes mœurs, s'arrêter de pleurer. J'ai allé dans le ghetto, séparé mes frérots, préparé à blanc. J'ai ramassé les prostituées, mis une rencontre. Tu me mets ta aucune idée des possibilités. Oh, je suis pressé, chope le quartier à l'or pour aider les pauvres. Qui diserait, on s'entend, j'ai quitté ce monde. Fixé ma montre, c'est le son de l'alarme de ma mort. One time, à midi, je suis con. J'ai rendez-vous avec Jésus, je m'habille pour aller à l'église. Oh!
Wyclef Jean avec Musayunt, un ancien groupe qui revient d'ailleurs de Montréal. La pièce 24 heures à vivre, tirée d'un album paru en 2004 qui s'appelait Welcome to Haiti, Créole 101. Donc, merci à Simon encore pour les actualités nationales avec Anne-San Diab. Toujours aux Apatrides Anonymes, on poursuit avec Marie-Ève et la première partie de son agenda sur le mois de l'histoire des Noirs.
Oui.
Nous sommes en plein dans le mois.
Oui, je vais commencer quand même par remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire faire l'histoire du mois de l'histoire des Noirs.
Mm-hmm.
Hein. Parce que, bon, je trouve que c'est pas une bonne idée de prendre pour acquis que tout le monde sait d'où quelle est l'origine de cette célébration. Donc, le mois de l'histoire des Noirs est une célébration, commémoration de l'histoire de la diaspora africaine qui a vu le jour en 1976 aux États-Unis. À l'origine, en fait, il s'agissait d'une semaine, la Negro History Week, qui s'est tenue la première fois la deuxième semaine de février 1926, 50 ans après la promulgation du 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui abolissait l'esclavage. Cette semaine-là avait été choisie pour coïncider avec les anniversaires d'Abraham Lincoln, le 12 février, qui lui était le 13e président des États-Unis et qui, c'est lui également qui a fait ratifier le 13e amendement, ou en tout cas à l'origine de.
Mm-hmm.
Et également autre anniversaire de Frédéric Douglass, le 14 février, qui est un ancien esclave et qui est devenu l'une des principales figures de la cause anti-esclavagiste. Donc, depuis le mois de l'histoire des Noirs, il est célébré en février aux États-Unis et au Canada, et en octobre au Royaume-Uni depuis 87, et en Irlande, imaginez-vous donc, depuis 2014.
OK.
Au Canada, le mois de l'histoire des Noirs est reconnu depuis décembre 1995, quand la députée noire Jean-Augustine a fait voter une motion sur la reconnaissance des Noirs à la Chambre des communes du Canada. Et la première véritable célébration a eu lieu en février 1996.
Fait que c'est relativement récent quand même.
Quand même, oui. Puis je pensais qu'il y avait plus de pays, en fait, aussi qui célébraient... Donc, comme le calendrier des activités à Montréal est vraiment... très chargé, et c'est peu dire. Je vous propose donc une sélection là, d'événements, une sélection représentative de la diversité des événements qui sont présentés, donc autant là, conférences, cinéma, musique, arts visuels et arts de la scène. Je vais commencer avec les conférences. Première conférence dont je vous parle, le 20 février, conférence qui s'intitule « La ville noire sous la colline, histoire de la communauté anglophone de la petite Bourgogne ». C'est une conférence de Stephen High, qui est professeur d'histoire à Concordia et fondateur du Centre d'histoire orale et des récits numérisés. Lui, il mène des recherches sur deux quartiers populaires du sud-ouest de Montréal, la Petite Bourgogne et Pointe-Saint-Charles. Et donc là, on va parler vraiment de l'héritage noir à la Petite Bourgogne. Donc, le fin février à 12h45, c'est tout près d'ici, au 279 rue Sainte-Catherine-Est, au deuxième étage.
OK.
Autre événement, la présence noire au Québec, c'est une conférence du rappeur et historien Webster.
Ben oui, de Québec.
Qui va se pencher sur la présence des personnes de descendance africaine, captives ou libres, qui ont peuplé le Québec et le Canada depuis les débuts de la colonie. Par exemple, saviez-vous que le premier esclave africain canadien est arrivé dans la ville de Québec en 1629? Il s'appelait Olivier Lejeune et appartenait à Guillaume Couillard.
Oui, je savais, parce que Webster en a souvent parlé dans différents événements.
Donc ça, ça aura lieu le 22 février à 14h et c'est à la Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Et je vais terminer ce premier bloc avec deux panels de discussion qui vont avoir lieu également le 22 février au MAI, Montréal Art Interculturel. Donc, si vous voulez vous faire une après-midi, là, bac à bac, il y aura à 13h les arts comme arme de revendication. Donc, c'est un panel qui va porter sur le parcours professionnel et revendicateur d'hommes et de femmes là, issus des communautés noires dans le milieu des arts, mais plus particulièrement sur... leur démarche menant à l'empowerment dans la création artistique à travers la danse, la musique, le cinéma. Et on va se demander si les arts, est-ce qu'ils sont bel et bien inclusifs envers les communautés noires et racisées. Donc, comme panéliste, il y aura Zab Mabungu, qui est chorégraphe et directrice artistique de la compagnie de danse Nyata Nyata. Il y aura Will Prosper, qu'on a reçu il y a deux semaines là à notre émission, qui est cinéaste et activiste communautaire, et également Stella Adjoke, qui est autrice et compositrice interprète. Ça, c'est présenté dans le cadre du Festival Fondu au Noir, parce que dans le mois de l'histoire des Noirs, il y a plusieurs festivals. Le Festival Fondu au Noir, ça allie justement cinéma, humour, danse et musique. C'est multidisciplinaire. Puis pour la programmation complète de Fondu au Noir, vous pouvez aller au fonduaunoir.ca. Et l'autre panel tout de suite après celui-là, encore au mai, inclusion et diversité. Comment surmonter les obstacles de la différence dans le milieu professionnel. Là, ce sera avec un panel de assez hétéroclite. Georges Larac, ancien joueur de la LNI, hein, et maintenant de la LNH, pour le lapsus et homme d'affaires. Carmine Dufour, qui, elle, est auteure et cinéaste, et Eddie King, qui est humoriste. Donc, ça sera assez varié comme.
Ça va être.
Enlevant.
Divertissant.
Oui, c'est ça.
Donc, on en parle tantôt, Marie-Ève, du mois de l'histoire des Noirs. Tu donneras les coordonnées tantôt aussi de tout ça.
Oui.
Quelques notes de musique et on y va avec les actualités internationales. Actualité internationale, ben on y va aujourd'hui, ben j'y vais avec un pays, premièrement la Belgique, dont on parle peu souvent dans les médias et ici même à l'émission aussi. Je pense pas avoir beaucoup de temps de vous parler du Sahel et des déplacés dans cette partie de l'Afrique, mais je vous annoncerai le tableau pour en parler une prochaine fois. En Belgique, ben pourquoi en parler? Parce qu'il y a eu quelques événements dans les derniers mois qui ont pas mal choqué là-bas la population, les médias, les politiciens, des événements évidemment reliés au racisme décomplexé, expression préférée de Marie-Ève. Mais aussi actif, parce qu'il y a des groupes et des partis politiques xénophobes et réactionnaires là-bas aussi. Donc, une certaine onde de choc. Peut-être avant de passer aux événements en tant que tels qui ont eu lieu, vous dire la situation, ben brièvement, une partie de la situation. Disons qu'en Belgique, actuellement, l'occupation dans les structures d'accueil, ce qu'on appelle les structures d'accueil, donc l'hébergement, est en hausse. Ça s'explique par une augmentation des demandes d'asile en Belgique et par un allongement de la procédure d'asile. Donc, moins de renvois rapidement. Et donc, la plupart des structures ont atteint ou dépassé le 100% d'occupation au niveau de la Belgique. Donc, le réseau là-bas s'appelle Fédéral Asile, okay. C'est l'organisme public qui compte 25 000 places d'hébergement pour des demandeurs d'asile. Il y en avait 21 000 au début 2019. Donc, on voit l'augmentation quand même 4 000 en un an des places. Et là, ils veulent ouvrir des centres, installer des tentes dans des centres et installer des containers dans des cours de centres. Là, c'est des milliers de places qu'ils veulent ouvrir dans les prochains mois. Et voilà la situation au niveau de l'hébergement. Je vous dis ça parce qu'au mois de novembre dernier, il y a un futur centre d'accueil temporaire qui a été incendié de façon criminelle dans la ville de Bilzen, dans le nord néerlandophone ou flamand.
Flamand.
Ouais, voilà. Pas de blessés parce qu'il était pas encore sur place, mais beaucoup de dégâts matériels. C'était un centre qui allait être géré par la Croix-Rouge. Donc, une triste première, mais qui indique une tendance parce que les événements, les incidents de ce type-là ont triplé dans les derniers temps, en 2018, 2019, 2020 en Belgique, au niveau des actions qui visent contre les demandeurs d'asile.
Oui, je me rappelle d'ailleurs que lors de cet incendie-là que tu mentionnes, il y avait eu des appels. C'était pas chic, hein, comme
J'y viens, je vais te donner quelques extraits. Donc, quand il y avait eu les rencontres de préparation pour dire aux gens, il va y avoir un centre d'accueil dans votre ville, il y avait eu de la colère, évidemment, dans des soirées d'information. Il ferait mieux de mettre le feu à ce truc. Ça avait été dit devant tout le monde. Et une certaine députée du Vlaams Belang, le bloc flamand qu'on aime beaucoup, Annick Pontier, c'est une francophone en plus, c'est elle qui avait mené la fronde pour s'opposer à l'implantation de ce centre-là. Et après l'incendie, elle a dit regretter profondément les suites de ses propos, hein, quand même. Fait que ça vous donne une idée. Mais sinon, oui, le témoin qui a appelé les secours quand il a vu l'incendie en novembre dernier s'est fait dire par les autres, ben non, appelle pas les secours, que ça brûle, on n'a pas besoin de ça. Plusieurs témoins oculaires rapportent que des spectateurs ont applaudi devant l'incendie. Donc, on voit un peu l'ambiance qu'on peut voir en Belgique aussi. On a même entendu bien jouer, mais quelques semaines trop tôt, hein, parce que les réfugiés n'étaient pas encore, les demandeurs d'asile n'étaient pas encore arrivés dans le centre. Super. Continuer, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Enfin, quelqu'un qui prend les choses en main. Voilà ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, on voit un peu le portrait, j'en parlerai pas pendant des heures.
Édifiant.
Édifiant. Et ensuite, fin janvier, tout récemment, le parquet de Ypres en Belgique qui a ouvert une enquête suite à un déferlement de commentaires racistes sur la page Facebook d'un média local dans le nord flamand, encore une fois, qui s'appelle Focus NW Télé, qui couvrait une opération policière pour secourir des migrants qui ont pris la mer dans une ville, ça s'invente pas, qui s'appelle La Panne, dans le nord donc de la Belgique, qui est devant la Manche, donc des réfugiés qui voulaient aller en Angleterre, comme on voit en France, ouais. Par bateau, on en a parlé un peu il y a quelques semaines. Donc, il y a eu une opération policière. Ils ont arrêté 5 Iraniens, un Afghan, d'autres qui ont dû revenir par eux-mêmes sur les côtes parce que leur embarcation a chaviré. Et les commentaires ont déferlé. Encore un peu le même genre de commentaires super pertinents. Le plus important est de trouver le bateau et non pas les personnes. Laissez-les nager, ce n'est pas très loin, on sera débarrassé. Donc, ce genre de commentaires-là. Mais là, ce qui a attiré l'attention un peu, c'est que il y a une enquête ouverte parce qu'en Belgique, il y a une législation antiraciste qui date d'il y a quelques années et il y a des gens qui pourraient être poursuivis au niveau criminel. On verra ce que c'est. J'ai pas eu de suite depuis la fin janvier à ce niveau, s'il y a eu des gens qui ont été accusés. Mais ça peut tomber sous le coup de ce genre de législation-là. Donc, peut-être vous dire aussi que l'organisme UNIA, qui est un organisme public en Belgique de lutte contre les discriminations, a identifié le fait que ça se passe souvent dans le nord néerlandophone de la Belgique, donc le nord flamand. Pas que ça se passe pas chez les francophones ou les wallons, mais il y a une petite tendance parce qu'on rappelle qu'aux élections communales d'octobre 2018 et aux législatives de mai 2019, il y a une nette progression en France du parti Vlaams Belang, qui est désormais deuxième force politique de la région derrière les nationalistes flamands de la NVA, qui est pas tout à fait mieux non plus. Donc c'est ça qui se passe en Flandre, en Belgique actuellement. Donc la première ministre Sophie Wilmès, hein, il y a une première ministre Première ministre Sophie Wilmès, donc elle a proposé de créer une conférence interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et quand elle en a parlé au Parlement fédéral belge, en disant la liberté d'expression est sacrée, mais le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Ben évidemment, tout le monde a pointé du doigt vers le Vlaams Belang et le NVA.
Oui, c'est ça. C'est eux autres, pas nous autres.
Ben c'est vrai que c'est relatif, mais en même temps, c'est vrai que ces groupes-là en particulier font leur fonds de commerce là-dessus, au niveau électoral, entre autres. Et d'ailleurs, le Vlaams Belang n'a jamais applaudi ni approuvé les démarches de la première ministre ou des autres élus pour lutter plus activement, disons moins en apparence, contre les commentaires ou les actions racistes. Faut dire que le NVA a été beaucoup blâmé parce qu'en 2018, ils ont fait une campagne très virulente contre le pacte d'immigration de l'ONU. Ça vous rappelle? On en avait parlé, me semble, à l'émission. Donc, elle a fait une campagne qui était très raciste, qui avait été enlevée. Fait que c'est sûr que les gens, les médias, les policiers rappellent à ces gens-là, donc, qui ont des responsabilités. Fait que ça pour dire que on a proposé la mise sous pied d'un groupe de travail pour faire en sorte que les délits de haine soient bel et bien poursuivis et que l'élaboration d'une déontologie pour les parlementaires au niveau des propos qu'ils peuvent tenir. Ça, c'est des projets qui ont été, des choses qui ont été proposées suite aux événements dont je vous parle depuis tantôt. Et beaucoup ont rappelé aussi que la Belgique n'a toujours pas de plan national de lutte contre le racisme 19 ans après s'y être engagée sur la scène internationale suite à d'autres événements. Et une députée a fini en disant, Marie-Ève, pendant ce temps, le racisme se répand de manière totalement décomplexée. Hein?
Oh, elle pense comme moi.
Sauf qu'ils sont moins pires qu'au Québec, je pense. Ils ont quand même des lois.
Hein? Ben, ils ont une politique, mais tu vois qu'avec ces événements-là, qui concernent entre autres les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y a, des gros trous, là. C'est sûr.
Ici, il y a des gros trous.
Ici, il y a des gros trous.
Oui, il y a des gros trous, mais je veux dire, pour des propos comme ça, je veux dire, on en a parlé, là, dans le, notre revue de l'année, tu sais. Justement, quand je parlais de ma chronique, ben quand Simon t'a pris mon contenu, tu sais, sur le racisme décomplexé, tu sais, le bonhomme là qui a été arrêté il y a pas si longtemps pour propos.
Ouais, mais c'est plein de ça. C'est
oui,
plein,
je
plein,
sais,
plein,
mais
plein.
Je veux dire, il y a quand même.
Ouais, oui. Mais tu pour dire qu'en en Europe, c'est pas ça qui manque. Puis en Europe.
Puis c'est pas ça qui empêche les gens de tenir de tels propos
pas.
De toute façon.
Non, non, non. Puis disons que ça se passe quand des gens applaudissent devant un incendie. Disons que j'ai pas vu ça souvent ici quand même en
oui,
vrai.
À Halifax, il y a une famille syrienne qui a donc tous c'est les vrai. Enfants perdu la vie puis ont été obligés de retirer la nouvelle, mais il y a pas eu de poursuite.
Non, non.
Ah ouais.
Mais de toute façon, les poursuites, ça vaut ce que ça vaut de toute manière. L'idée, c'est de faire l'éducation. Puis de faire que ces gens-là puissent s'exprimer comme ça. Je vais juste présenter mon sujet dans deux semaines. Finalement, j'aurais pas le temps d'en parler aujourd'hui.
Pauvre Mathieu.
Il est déjà préparé, mais oui, pauvre Mathieu. Hein. Mais on a des bonnes discussions. Je vais vous parler du Sahel, c'est-à-dire nord-ouest un peu de l'Afrique, ancien coin colonial français. Donc, on va parler de France-Afrique. On va parler évidemment de l'intervention des forces militaires françaises. On va parler des groupes armés là-bas qui sévissent aussi, des populations déplacés. Juste vous dire que récemment, le Mali a passé le cap des 207 000 déplacés internes et le Burkina Faso, les 600 000 déplacés internes. C'est des pays dont on parle pas beaucoup, mais le HCR considère actuellement que c'est une des pires crises humanitaires dans le monde. Il y en a d'autres, et malheureusement, mais on parle moins de ces pays-là. Et le Sahel, c'est aussi le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Donc, on parlera de tout ça dans deux semaines. C'est parce que c'est difficile de parler de ce qui se passe. On peut juste donner les chiffres sur les déplacés, mais toute la géopolitique, les enjeux sociaux, économiques, écologiques aussi. Donc, on pourra en parler plus dans deux semaines. Je vous en parlerai avec plaisir. On va à la musique avec Sidi Wacho, groupe français, la pièce élégante. Je vous donne plus d'infos sur ce groupe-là dans quelques minutes et on revient avec la Minute Coloniale avec Simon.
Somos clase baja pero importante, ya lo dijo Caldera, lo canto yo. En el bloque sobra flow que hay para regalarte, muralla con arte, revienta el color. Mi barrio picante, tremendo sabor, María Mulata. Pero qué manera de caminar, estilo callejero, la elegancia popular. Politique, la préf est en panique. On a la coupe d'Afrique. Retournement du stigma, volet acrobatique. Toi tu nous critiques, nous on revendique. Des Z, Fennec, Roubaix, Belek, nouvelle basket. Dis-moi, Sardec, démonstration de style. Et tu veux de l'élégance, tu veux la classe et des petits pas de danse. On a les dégaines qui bipent à la frontière. Un trop insolent pour le canap de Drucker. Échec scolaire, petit problème capillaire. On n'a pas les critères de l'agence immobilière.
Rebelde,
siempre pa'lante,
cumbia rebelde,
ponte elegante.
Le groupe français Silly What Show, la pièce Elegante, non pas élégante. Donc, un album qui s'en vient, qui va paraître très bientôt dans les prochaines semaines. Donc, entre autres, le rappeur Saïdou, qui lead ce groupe-là, qui est aussi dans le groupe assez connu, le ministère des Affaires Populaires. Donc, groupe qui est déjà venu à Montréal, entre autres aux Nuits d'Afrique, qui devrait revenir dans les prochaines semaines, prochains mois, pour leur nouvel album. Donc, on va y aller avec la Minute Coloniale concoctée par Simon, et après, il nous décortique ça et il nous explique qu'est-ce qu'il y en est.
Avec plaisir. Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. Lionel Groulx, prêtre et illustre historien clérico-nationaliste, est affectueusement surnommé le Petit Chanoine. Il demeure à ce jour l'un des plus grands intellectuels qu'a connu le Canada français, nous abreuvant de ses riches écrits sous forme d'articles, d'essais, de romans, ou livrés oralement lors de grandioses exercices oratoires, et ce, tout au long d'une prolifique carrière qui aura duré plus de 50 belles et longues années. Il a entre autres fondé la revue L'Action française, du même nom que celle fondée en France par le collaborateur Charles Morat, et qui deviendra une pépinière d'idées novatrices et un efficace organe de diffusion des plus récentes avancées en matière de conservation de notre belle ruralité canadienne-française. Le chanoine Groulx a déjà dit « Notre urbanité ne vaut la délicatesse paysanne, vraie fille de la charité chrétienne. » Fervent admirateur de Salazar et de Mussolini, de mauvaises langues l'ont parfois qualifié de raciste ou d'antisémite. Légèrement eugéniste il fut, certes, mais raciste, voilà qui est fort de café, une véritable enflure langagière telle que nous ne saurions en tolérer entre gentlemen de la ville aux 100 clochers. Pourtant, tout ce que prônait le bon chanoine n'était autre que la défense de notre belle race canadienne-française, telle qu'il l'exhorte, entre autres, dans son plus célèbre ouvrage intitulé « L'appel de la race », où l'on nous met judicieusement en garde contre les croisements qui, il faut le dire, ne font qu'affaiblir les éléments les plus purs de notre belle province. Il dira, et je le cite, « Mais il est donc vrai le désordre cérébral, le dédoublement psychologique des races mêlées. » Le chanoine Groulx nous aura prévenu. Les mariages mixtes, le jazz ou le Coca-Cola doivent absolument être écartés. Par contre, celui dont il faut se méfier demeure le juif, qui est présenté par le bon chanoine comme une menace pour l'âme, l'internationalisme juif étant l'un des plus dangereux agents de dissolution morale et sociale à travers le monde, écrira-t-il tout au long de sa vie. Selon ses lumières, le juif se trouve, et j'ouvre encore les guillemets, au fond de toutes les affaires louches et de toutes les entreprises de pornographie, livres, cinéma, théâtre, etc. Toute sa vie, il aura voulu mettre ses compatriotes à l'école de notre maître le passé, qui est aussi le titre de l'un de ses plus passionnants ouvrages. À propos des universités francophones, le chanoine dira « J'estime que l'institution n'a point pour but suprême de faire de nos jeunes gens des savants, mais d'abord et avant tout des Canadiens, Français et des catholiques. Tout notre enseignement doit se subordonner à cette fin. Nos universités ne doivent pas être des institutions d'esprit cosmopolite. » Lionel Groulx est mort en 1967. Il assista au début de la Révolution tranquille et s'en trouva ébranlé, la décrivant comme un séisme mystérieux. Heureusement, Dieu l'en garda et le rappela à lui avant que les Québec modernes ne deviennent impies et sombres dans une dépravation morale empreinte de juiverie. C'était la Minute Coloniale, présentée par les Apatrides Anonymes.
La minute coloniale que Simon va nous expliquer. On a manqué quelques secondes au début, mais on va tout nous expliquer ça.
Bon, on avait peut-être deviné que c'était sur Lionel Groulx, le bon chanoine, le petit chanoine.
Le petit chanoine canadien-français.
Oui, de son nom complet, Lionel Adolphe Groulx, ça s'invente pas.
Non.
Donc, figure polarisante du Québec, s'il en est. Donc, en faisant un peu de recherche sur lui, en lisant quelques extraits de ses 1000 textes, parce qu'il a vraiment pondu beaucoup, beaucoup, le monsieur, c'est clair que Lionel Groulx, c'est un gros raciste. Ben, je l'affirme haut et fort et sans gêne. Donc, c'est clair que toute sa pensée ne tournait pas autour de la supériorité des Blancs francophones catholiques, qui a souvent décrit comme un peuple élu de Dieu, mais ça reste un thème assez récurrent chez lui. Des niaiseries, il en a dit, c'est assez fou. Par exemple, que le cancer, c'est un mal non seulement physique, mais aussi moral, que c'est le résultat de la dilution de la pureté de la race. Tous les exemples toutes les citations que je mets dans la minute coloniale sont toutes aussi parfaitement authentiques. Il a fait des romans de fiction qui je sais pas trop comment dire ça, c'est des romans de propagande nationaliste, donc ça peut difficilement être bon, on s'entend. Le plus célèbre, c'est L'appel de la race. Les extraits que j'ai lus, ça avait l'air vraiment de la pure merde, là, carrément. Donc, non seulement au niveau du contenu, mais en termes littéraires, là, c'est vraiment pénible. Je vais vous livrer ici une réplique du personnage principal en plein dialogue. Je vais prendre ma voix, tiens. Je tiens à l'ajouter, l'avenir chrétien de mes enfants me préoccupe plus que toute autre chose.
Ah, c'est toi qui fais ça.
Non, j'imite une imitation. Mes études de ces derniers temps m'ont démontré par-dessus tout les affinités profondes de la race française et du catholicisme. C'est pourquoi, sans doute, on la dit la race de l'universel. Donc, on voit que Lionel Groulx passe ses messages politiques en toute subtilité. Ça a l'air d'un dialogue quand même assez naturel. Enfin, bref. Certains contemporains essayent de réhabiliter Lionel Groulx, mais en général, ce sont aussi des ultranationalistes, avec toutes sortes d'argumentaires. Bon, évidemment, Lionel Groulx a été fortement critiqué, comme dans un ouvrage qui s'appelle « Le traître et le juif » d'Esther Delisle. Ça a été publié en 1992. Ça se penche sur le fascisme au Québec dans les années 20 et 30, donc forcément, ça tourne pas mal autour du personnage de Lionel Groulx. Essai qui est pas parfait, qui a aussi essuyé certaines critiques, mais qui est un jalon important, je pense, dans le monde de l'édition québécoise, puisqu'il s'agirait d'un des premiers livres au Québec à se pencher sur cette question-là. Donc, Le traître et le juif d'Esther Delisle. Il y a aussi Gérard Bouchard, plus récemment, qui s'est intéressé à Lionel Groulx. Il a publié en 2003 Les deux chanoines, contradictions et ambivalences dans la pensée de Lionel Groulx. Ça a l'air assez intéressant. Sinon, il y a le journaliste Luc Chartrand qui a fait le jeu des comparaisons entre Lionel Groulx et un autre religieux assez connu, influent de la même époque, soit Marie-Victorin. Deux approches et deux philosophies radicalement différentes, donc un qui est pour le développement, la transmission des sciences à la jeunesse, l'autre qui est contre, l'un qui est curieux des autres cultures, polyglotte, intéressé par les métissages, notamment après ses voyages à Cuba, l'autre qui est unilingue, porté sur le mystique et effrayé par tout ce qui n'est pas canadien, français, catholique. Donc il y en a qui disent « c'était un homme de son temps, c'est comme ça, comme non ». Il y avait des critiques à son époque, il y avait d'autres façons de penser. Donc, c'est un exercice de comparaison qui est pas complètement scientifique, mais qui est quand même révélateur. Donc, l'article s'appelle « Êtes-vous Marie-Victorin ou Groulx? » Ça a été écrit en 2018. Ça se trouve facilement en ligne. Sinon, ça fait longtemps qu'il y a eu des campagnes pour débaptiser la station de métro Lionel Groulx.
J'y pensais, justement. Ouais.
Ouais, ben, en tout cas, il va falloir encore y penser parce que je pense que ça va se faire bientôt, mais tu sais, il y a aussi une rue Lionel Groulx, un cégep Lionel Groulx, plein de trucs commémoratifs partout au Québec. Les campagnes pour débaptiser la station de métro, ça date d'il y a plus de 10 ans. Et on militerait pour que la station s'appelle Oscar Peterson, qui est mort en 2017, figure extrêmement importante de la musique et du jazz à Montréal et dans le monde entier.
Et de la Petite-Bourgogne aussi, évidemment, qui est à côté du métro.
Ben, le métro est carrément, je crois, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Puis ce serait une figure plus positive qui a grandi dans le sud-ouest, donc dans le quartier où se trouve la station, comme on disait. Malheureusement, ce ne sera pas fait bientôt, mais je vais vous laisser avec une dernière citation délicieuse du Petit Chanoine, si vous voulez. La diplomatie est l'arme des faibles.
OK, merci Simon. Là-dessus, on va justement, dans quelques secondes, passer à la deuxième partie du calendrier sur le mois de l'histoire des Noirs avec Marie-Ève. qu'on va terminer dans quelques minutes l'émission. Avant ça, on va avoir quelques autres événements du mois de l'histoire des Noirs avec Marie-Ève.
Oui, donc tout à l'heure, je vais parler de conférences. On va passer d'un niveau à un niveau plus artistique. On va y aller en cinéma avec une soirée qui s'intitule « Être noir à Montréal ». Projection de 5 courts-métrages suivis d'une discussion en compagnie de leurs jeunes réalisateurs montréalais. En fait, c'est présenté par la Fondation Fabienne dans le cadre du volet montréalais de son programme Relève et diversité, qui a permis à 15 jeunes cinéastes de 18 à 30 ans, issus des communautés noires de Montréal, Toronto et Halifax, de créer 15 courts-métrages documentaires de 8 à 10 minutes chacun, dans lequel ils pouvaient traiter là du sujet qu'ils souhaitaient, tant que ça respectait la thématique « Être noir au Canada ». Ils ont reçu une formation spécialisée jusqu'à la diffusion de leurs œuvres, et donc on pourra voir le 5 de ces 15 courts-métrages-là. C'est présenté le 21 février à 19h à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. C'est payant, mais bon, comme c'est organisé par une fondation, j'imagine que les fonds, ça va justement servir à la prochaine édition de Être noir à Montréal. Donc, c'est payant 20$. Autre soirée, Queer d'aplomb.
Oh.
Alors, deux documentaires qui sont présentés au cinéma moderne. Le premier, Badassery, c'est un documentaire en anglais, réalisé par Lisandre Coste-Tremblay. C'est un documentaire qui suit le parcours de trois femmes DJ dans la scène hip-hop de Toronto, dont l'audace permet d'ouvrir la voie là, à une génération de femmes et de personnes LGBTQ, autrefois exclues, évidemment, des normes sociales et culturelles du milieu du hip-hop. Donc, assez intéressant. L'autre, Fabulous, français avec sous-titre anglais, réalisé par Audrey Jean-Baptiste. Elle, c'est, après plus de 10 ans d'absence, une icône internationale de la scène voguing et militante LGBTQ, retourne en Guyane, son pays natal, pour donner pour la première fois une classe de maître de voguing sur ce territoire où l'homosexualité est un sujet très délicat. Mm-hmm. Je vous rappelle que le voguing, c'est un style de danse urbaine qui est né dans les années 70 dans les clubs gays de New York. Donc, ces deux documentaires seront présentés dans le cadre de deux soirées, le 23 février et le 26 février à 19h au Cinéma Moderne, un petit 12$. C'est dans le cadre, en fait, de la 12e édition du festival Massimadi, qui est un film art, un festival de films et d'art LGBTQ et afro. Vous pouvez aller voir la page Facebook pour la programmation complète. Sinon, en art de la scène, je vous propose Le Fossoyeur, qui est un conte fantastique inspiré des chroniques des sept misères de Patrick Chamoiseau, qui était un roman. C'est adapté par le conteur, danseur et musicien Franck Sylvestre. Donc, c'est un truc qui va mélanger la sorcellerie et qui se passe en Martinique. Ça se tiendra le 28 février à 19h. C'est au théâtre Paul Buissonneau, vous savez, dans le parc La Fontaine, l'espace près de où il y a l'espace Calixte-la-Vallée.
L'espace La Fontaine, ouais.
Ouais. Anciennement Calixte-la-Vallée. 15$ également. Autre art de la scène en danse cette fois-ci. Boat Trail Rétrospect, c'est un spectacle chorégraphique documentaire de Rodney Désir qui met en scène une danseuse, deux musiciens et un écran immersif de projection. En fait, c'est la chorégraphe Rodney Désir met fin à un cycle, si on veut, puisque depuis 2015, elle a effectué des démarches dans 6 pays d'Amérique, soit le Brésil, la Martinique, le Haïti, Mexique, Nouvelle-Orléans et ici au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, j'ai un blanc. Toujours est-il qu'elle présentera un peu une rétrospective de ses multiples créations qu'elle a fait dans chacun de ces pays-là avec des artistes locaux. C'est à l'espace libre, c'est jusqu'au 22 février. Le prix régulier, $35, mais heureusement, il y a un prix étudiant à $27. Puis j'aimerais terminer avec une proposition en art visuel, rapidement. Carillon décolonial, une histoire de famille, c'est présenté à la galerie Armure, qui est sur la rue Saint-Hubert, près de Rosemont, près du métro Rosemont. C'est l'œuvre de Eddie Firmin englobe, c'est multidisciplinaire aussi. C'est autant de la peinture, sculpture, vidéo, installation, poésie et performance. Il s'intéresse à la façon dont les modalités de production des savoirs en pays colonisé vont aliéner les imaginaires, puis comment on peut restituer une manière d'être au monde à travers les arts. Lui, il est d'origine de la Guadeloupe et est exilé au Québec. Donc, il allie vraiment ces deux héritages-là ou cette double conscience-là pour lier art, vie, art, savoir, art et transmission et art et résistance. Voilà. Donc, je vais clore là-dessus, peut-être juste en vous disant que... pour avoir toute la programmation du mois de l'Histoire des Noirs, vous pouvez aller sur moihistoiredesnoirs.com. Il y a aussi des événements littéraires, de la musique, évidemment, puis des activités spécialement dédiées aux enfants et aux jeunes.
Il y a plein de choses, on n'en parle pas tant que ça dans les grands médias. On parle de certains gros événements, mais pas de l'ensemble de la programmation.
C'est ça.
Ils ont une page Facebook, les réseaux sociaux, donc allez voir ça, des extraits de spectacles. On va terminer là-dessus, cette émission bien chargée du 13 février 2020, en compagnie de Simon et Marie-Ève. Merci.
C'est toujours un mélange entre un marathon et un sprint.
Oui,
merci,
oui.
Merci, à l'animation.
Mais ça fait plaisir. On se pratique, on va de mieux en mieux. Ça fait même pas un an qu'on fait l'émission ensemble. Donc, on se revoit le 27 février, jeudi 18h30. Puis nous écouter sur notre site Internet ou sur la page sur le site de Choc et aller voir notre page Facebook. On va mettre des articles suite au sujet qu'on a parlé ce soir. Et si on a 2 secondes, on entendra peut-être un petit peu de Red Mass, qui est une nouveauté, groupe de Montréal. C'est dans le palmarès de Choc, la pièce Too Far From Grace. On se reparle dans 2 semaines. Merci, merci. Stuck in this place.